Alors, Mario, notre deuxième sujet ce matin, cette enquête donc sur des cas présumés d'esclavage et de vente de personnes en Libye.
Oui, c'est sorti par CNN il y a quelques jours, puis c'est ce qui est frappant, c'est l'image, la scène elle-même, parce que c'est une... Je veux le dire, crûment, c'est une enchère, ça peut sonner... bon, moi, je viens peut-être du monde agricole, je connais plus ça, mais tu sais, des enchères carrément de bétail, là. Tu sais, avec la personne qui parle bien vite, puis qui lance des prix, puis les gens font un petit geste de la main pour acheter, là. Sauf que c'est des êtres humains qui, pour quelques centaines de dollars, sont vendus, des jeunes hommes. Puis là, ben, ce qu'on raconte autour de ça, c'est que un jeune homme en bonne santé pour faire du travail agricole ou pour faire du travail, travail physique, là, mais ça vaut plus, etc., etc. Bon, à peu près, là, ce qu'on peut voir de plus bas, à peu près dans l'humanité, quand on est rendu à vendre des êtres humains, l'esclavage, parce que dans le fond... C'est ça, c'est la définition même, c'est la base même de l'esclavage quand on pense qu'on peut se payer des humains. Comment ces gens sont devenus esclaves? C'est l'extrême vulnérabilité, évidemment. À partir du moment où tu te places en situation comme migrant, parce que ce sont des migrants, donc des gens qui s'en allaient vers... Ils arrivent en Libye, ils s'en allaient vers la Méditerranée, ils arrivent d'autres pays d'Afrique, mais ils voulaient aller traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Et donc, y a des demandes d'enquête, mais la situation est pas complètement nouvelle, parce que je retrouvais, par exemple, des enquêtes du journal britannique The Guardian en avril dernier qui parlait déjà... Ils avaient pas, là, une vidéo, tu comprends, d'une enchère en train de se dérouler ou est en train de vendre du monde. Puis souvent, malheureusement, l'opinion publique réagit à ça. Là, quand tu le vois, ça fait comme ça. Tu réagis de façon plus, on va dire, épidermique, là. Mais il y avait déjà ces histoires-là qui circulaient. Bon, là, il y a des demandes d'enquête, et la grande question, dans le fond, c'est qui doit enquêter, parce que le gouvernement libyen, lui, souhaite pas trop qu'il y ait d'enquête, on va dire, qui vienne de l'extérieur, ou d'enquête qui soit faite à un niveau supranational ou international. Ils veulent faire leurs enquêtes à l'interne. Puis ça soulève toute la belle question, là, que vaut le gouvernement libyen, quelle est sa solidité, parce que s'il y a eu autant, si les passeurs ont utilisé autant la Libye, si les vendeurs d'êtres humains ont utilisé la Libye, c'est pas un hasard, là. C'est parce que il y a un gouvernement de coalition maintenant, mais depuis le départ de Kadhafi, pendant une période, on a parlé de quasi-anarchie, là, on parle d'un gouvernement très faible, mais c'est sûr que ça... C'est plus t'as un gouvernement faible, plus ça ouvre la porte à toutes les formes de passeurs puis de bandits tout acabis, d'occuper le terrain ou d'être roi et maître dans un petit coin de territoire, dans une petite ville, dans un petit endroit où tu sais que t'es plus fort que la police ou t'es plus fort que l'autorité du gouvernement. Là.
Cette vidéo-là, c'est comme la page couverture d'un livre qu'on réouvre de temps en temps. Puis là, évidemment, tu regardes les différents chapitres, tu te rends compte que c'est un exemple d'esclavage direct, de marché d'êtres humains, mais que c'est un commerce, l'esclavage, qui touche, les chiffres sont effarants, touche 40 millions de personnes. Parce que sous ce terme de l'esclavage, il y a évidemment, là, un cas concret de vente d'êtres humains, mais il y a les trafics d'êtres humains, c'est-à-dire le nombre des milliers et des millions de personnes qui payent pour pouvoir sortir de leur pays, avoir accès à un bateau qui risque de couler, par exemple, comme on le voit entre la Libye puis l'Italie. Et il y a l'exploitation honteuse qu'on connaît des enfants dans plein de pays. Puis là, on parle de l'Inde, de la Chine, de l'Ouzbékistan. Je me demandais pourquoi l'Ouzbékistan. Semble-t-il que le gouvernement, par exemple, impose que tout le monde travaille à la récolte du coton en Ouzbékistan. Mais d'une façon, là, tu es militaire, tu le fais ou tu es battu ou tu es tué. Puis surtout, toute l'exploitation sexuelle. Puis on inclut dans ce phénomène de l'esclavage les mariages forcés et l'exploitation, évidemment, des femmes à travers le monde. C'est un marché gigantesque. Les chiffres, donc, tu dis, voyons, 40 millions, c'est ça les chiffres là, qu'on retrouve au fil des ans. Et puis une valeur de ce marché-là de 150 milliards. 150 milliards, 150 000 millions. Donc, il y a des mafias très organisées qui profitent de... Et ils profitent... Ça nous interpelle parce qu'ils profitent de quoi? Ils profitent du fait que dans... Beaucoup en Afrique et dans bien des pays surpeuplés, le nombre de personnes puis la précarité de la vie des personnes est telle que dès que tu es le moindrement organisé, tu peux exploiter des gens dans leur vie même. Tu as un droit de vie et de mort. Et puis moi, je trouve que c'est une des conséquences comme la partie sombre. Tu sais, on parle des Paradise Papers, puis on parle de la concentration de l'argent entre les mains d'une minorité de plus en plus. Mais les conséquences, c'est ça. Les conséquences, c'est l'apparition de nouvelles maladies, comme le choléra. C'est l'exploitation de l'humain par l'humain. Parce que des gens là qui sont dans cette dans ce niveau de démunis, à ce point-là, deviennent les victimes de n'importe quel trafic. Ils n'ont plus aucun moyen de défense. C'est pour ça que la vidéo, moi, je la trouve est frappante. Mais ça me rappelle la photo, tu sais, du petit gars qu'on avait vu sur la plage en Italie.
Ouais, ouais, ouais.
C'est toujours des moments dans l'histoire. Puis tu as toujours le sentiment que, diable, comment t'interviens là? Comment tu fais?
Mais ça m'a fait penser à... Puis, tu sais, Mario parlait tantôt de bétail, là, tu sais.
Oui.
Bruno Roy, que tu as connu, qui était le président de l'Union des écrivains, qui était un orphelin du Plessis.
Oui.
Il me racontait que, à quelques reprises, il y avait comme pas un encan, là, mais que l'institution où il était, le samedi, arrivaient des gens, pour la plupart des producteurs agricoles ou des gens qui avaient besoin de main-d'œuvre gratis, et choisissaient les jeunes en fonction de leur... Tu sais, OK, il y a 14 ans, il a l'air assez bâti, il est capable de travailler. Puis, t'es pas payé, là.
Ouais,
oui. T'es recruté, puis il allait passer l'été, le temps des... On n'est pas dans le même registre, mais ce que je veux dire, il y a quand même au Québec des cas ou des périodes dans l'histoire où on a utilisé comme ça ce type de main-d'œuvre là.
Absolument. Puis
les institutions religieuses ont été complices de ça.
Oui, j'ai en tête... Moi, je pourrais... Effectivement, hein? Je confirme, parce que j'ai en tête un exemple dont je me souviens très bien. Mais puis aussi, il faudrait voir, par exemple, dans tous les travailleurs étrangers là, qui viennent du Guatemala, qui viennent du Mexique. Heureusement, il y a des gens qui s'en préoccupent, tu sais, dont certains syndicats qui essaient de s'assurer que ces gens-là... Mais je les vois là autour, tu sais, dans la région des pommes, puis tout ça. Je les vois travailler 7 jours par semaine.
Ils sont pas malheureux, là.
Mais en même temps, c'est vrai, ça leur permet d'envoyer de l'argent puis de faire vivre leur famille, probablement.
Ouais.
Mais c'est pas un problème banal. Ils sont
un petit peu plus habitués à travailler dur que nous autres, là.
Ouais. Mais
pour ramener de l'argent à la maison, là. Hein? Non, ils ont moins le choix, mais c'est un ensemble, là. C'est une autre discussion, là.
Ouais.
Je trouve. C'est ça. C'est que. Mais dans le cas des esclaves, là, tu parles d'une autre affaire. Là, quand t'es vendu, eux quand même qui viennent travailler ici, ils viennent de leur plein gré, puis ils savent que dans leur pays, même si c'est un travail dur puis que c'est pas ce qu'il y a de plus payant, dans leur pays, ce qu'ils ramènent, c'est du gros argent. Là.
C'est vrai, c'est deux questions différentes.
Non, mais quand tu vois, la roue de l'esclavage, c'est quoi? C'est de dire, dans certains cas, c'est carrément vendu, puis dans d'autres, tu parlais tantôt de gens qui veulent quitter leur pays, t'avances, on te paie le voyage, mais en même temps, tu verras pas la fin des remboursements, puis...
Non, c'est la vulnérabilité totale.
La traite des blanches au Canada aussi, ça existe, des jeunes femmes qui sont recrutées pour des réseaux de prostitution, puis que, bon... C'est une forme d'esclavage, ça aussi.
C'en est, et c'est considéré comme des esclaves. C'est toute la question sexuelle du trafic d'êtres humains, de jeunes femmes qui sont envoyées dans plein de pays. Puis il y en a des parmi celles-là qui sont des Québécoises.
Mais en Libye, pour revenir là, pour moi, c'est pas clair que ça va s'arrêter, là. Je veux dire, je crois assez peu au pouvoir des autorités locales pour mettre fin à ça. En fait, d'une certaine façon, j'ai un peu l'impression que probablement que les gens qui sont à la tête de ces réseaux-là, pour l'instant, sont quasiment plus forts que le gouvernement, là.
On s'arrête là-dessus. On vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve demain, 8h54. Tunnel La Fontaine.